Vous écoutez la conférence de Rudolf Steiner appelée « Nature de l'égoïsme ». Cette conférence a été donnée à Berlin le 25 novembre 1909. Elle est extraite du livre intitulé « Psychologie et vie intérieure, métamorphose de la vie psychique, voie de l'expérience intérieure ». Ce livre est paru aux éditions Fischbacher en 1990 et porte le numéro de bibliographie GA58 et GA59. La traduction depuis l'allemand en français est de Violette Rivierez. Le lecteur est Stéphane Lejoly. Nature de l'égoïsme. Une société fut un jour fondée, où et quand importe peu. Son programme portait un titre « Destruction de l'égoïsme ». Elle voulait donc donner à ses membres mission de s'entraîner à l'altruisme, de se libérer de tout égoïsme. Comme le font toutes les sociétés, elle avait élu son président, et il s'agissait dorénavant de propager de par le monde la raison d'être de la société. On y insistait constamment et de toutes les manières possibles sur le fait qu'aucun membre, en aucun lieu, et bien sûr pas davantage au sein de la société, ne devait à aucun moment formuler un souhait, un désir ou quoi que ce soit d'égoïste. Voilà donc une société dotée d'un programme louable et valable et d'un but humain élevé. Mais on ne peut pas pour autant dire de ses membres qu'ils aient cherché à réaliser en eux le paragraphe principal de leur programme. Ils n'apprirent qu'à peine ce qu'était un désir altruiste. Par contre, au sein de la société, la chose suivante arrivait bien souvent. L'un des membres disait « Je voudrais ceci et cela. » La société pourrait bien l'accorder. Mais si j'exprimais ce souhait devant le président, je formulerais un désir égoïste, ce qui serait absolument contraire au programme. C'est donc impossible. Quelqu'un d'autre répondait alors « C'est tout simple. J'y vais pour toi. » Je présente ta demande et ce faisant, j'accomplis un acte parfaitement altruiste. Mais écoute, j'aimerais aussi obtenir quelque chose naturellement. C'est tout à fait égoïste. Il n'en peut être question d'après le paragraphe 1 de notre programme. Le premier interlocuteur disait alors « Puisque tu es si désintéressé en ce qui me concerne, je vais faire quelque chose pour toi. » Je vais trouver le comité central et réclamer ce que tu désires. » Et c'est ce qui arrivait. Le premier se présentait, puis 2 heures après le second. Tous deux avaient formulé des désirs totalement désintéressés, et ceci ne se passait pas une fois par hasard, mais était devenu monnaie courante. Or, cette société ne donnait que rarement suite à un désir égoïste, puisqu'en effet, il était toujours formulé de la façon la plus altruiste par quelqu'un d'autre. J'ai dit « peu importe où et quand », il s'agit bien entendu d'une société hypothétique, mais jetons un regard circulaire sur la vie du monde et l'on comprendra qu'elle existe plus ou moins partout et toujours. Ce que je viens de dire tend à démontrer que le mot « égoïsme » entre guillemets, est l'un de ceux qui, au sens le plus fort, peuvent devenir des mots-clés, des slogans, des mots à l'emporte-pièce, quand ils pénètrent dans le monde et ne sont pas mis immédiatement en rapport avec ce qu'ils désignent, mais se travestissent sous un masque, se cachent sous un manteau et par là prennent un aspect trompeur. Ce slogan, l'égoïsme, aussi bien que son contraire, depuis bien longtemps consacré, l'altruisme, vont nous occuper maintenant, non point en tant que slogan, mais parce que nous cherchons à en pénétrer quelque peu la nature. De telles analyses, faites du point de vue de la science de l'esprit, ne peuvent tenir compte de la sympathie ou de l'antipathie que ces facultés éveillent en nous, pas plus d'ailleurs que des appréciations déjà énoncées sur elles. Il s'agit bien plutôt de montrer en quoi consiste l'égoïsme dans l'âme humaine ou dans la réalité extérieure, dans quelles limites il est justifié, quand il faut le combattre et sous quelle forme, et ensuite jusqu'où il se laisse corriger par la nature humaine ou par les nécessités de l'existence. Étudié du point de vue linguistique, l'égoïsme serait la faculté qui permet à l'être humain de s'intéresser à ce qui élève sa personnalité. L'altruisme, son contraire, serait la faculté qui placerait les capacités humaines au service des autres, au service du monde extérieur tout entier. Vous voyez qu'en n'allant pas au fond des choses, en s'en tenant à la lettre, au mot, on met le pied sur un sol bien dangereux. Un exemple tout simple nous le montre. Supposons un grand bienfaiteur dans un domaine quelconque. Il peut se faire qu'il soit devenu bienfaiteur par pur égoïsme, peut-être même pour des raisons toutes petites et égoïstement mesquines, peut-être par vanité, etc. Dire de quelqu'un qu'il est égoïste ne décrit en rien son caractère. En effet, quelqu'un qui possède de nobles tendances et cherche simplement à satisfaire sa conscience peut se sentir heureux en servant les intérêts des autres. Ce genre d'égoïste, entre guillemets, devient souvent très sympathique. Il semble que nous jouions avec les mots, mais il n'en est rien, car ce jeu occupe toute notre vie, toute notre existence. On le retrouve partout, dans tous les domaines. Quant à tout ce qui se passe dans l'être humain, nous trouvons dans l'univers quelque chose d'analogue qui peut servir de comparaison. Schiller nous indique en une phrase cette faculté de la nature humaine dont l'univers nous offre un phénomène comparable. Tu cherches ce qu'il y a de plus haut, de plus grand. La plante peut te l'enseigner. Ce qu'elle est involontairement, sois-le volontairement. C'est ainsi. Schiller désigne le monde végétal et propose à l'être humain de façonner dans son caractère quelque chose d'aussi noble que ce que possède la plante à un niveau inférieur. Et le grand mystique allemand, Angelus Silesius, dit à peu près la même chose. La rose est sans pourquoi. Elle fleurit parce qu'elle fleurit. Elle ne prête pas attention à ce qu'elle est, ne demande pas si on la voit. Là aussi, on nous renvoie au monde végétal. La plante absorbe ce dont elle a besoin pour vivre, elle ne demande ni pourquoi, ni comment, et ne s'occupe pas de savoir à quoi elle sert. Et cependant, ce qu'elle est pour son entourage et pour l'être humain, elle l'est parce qu'elle ramasse en elle ses forces vives, parce qu'elle extrait du monde qui l'entoure tout ce qui lui est nécessaire. Elle est la créature la plus utile que l'on puisse trouver, puisqu'elle appartient justement à ce monde végétal qui sert la vie des êtres plus évolués. Bien que répétées maintes fois, ces paroles trouvent ici leur place. Quand la rose se pare, elle pare aussi le jardin. Le jardin est paré par la rose, quand celle-ci est aussi belle que possible. Établissons un rapport avec le mot égoïsme. Quand la rose, justement égoïste, veut être belle, prestigieuse, le jardin en est paré. Avons-nous le droit d'étendre au monde de l'être humain ce qui s'exprime ainsi dans un règne inférieur? Point n'est besoin de le faire, beaucoup d'autres l'ont fait avant nous et Goethe mieux que personne. Lorsque Goethe voulut exprimer ce qu'est l'être humain, par quoi il exprime sa dignité et le contenu de son existence, il dit « Quand la saine nature de l'être humain agit en sa totalité, quand il se sent dans le monde comme dans un univers plein de grandeur, de beauté, de dignité, de valeur, quand ce bien-être harmonieux lui procure un ravissement pur et libre, alors, si l'univers pouvait posséder le sentiment personnel, il jubilerait d'avoir atteint son but et admirerait le fleuron, le sommet de son devenir et de son existence. » Ailleurs, Goethe, dans le merveilleux livre sur Winckelmann, répète « Puisque l'être humain est placé au sommet des créatures, il se saisit comme une nature totale qui cependant doit réaliser en elle un autre sommet. Il s'élève vers ce but en se pénétrant de toutes les perfections et vertus, en appel au choix, à l'ordre, à l'harmonie, au sens signifiant et atteint enfin son but, produire l'œuvre d'art. Toute la conception de Goethe nous indique qu'il applique ici son idée, tout spécialement à l'artiste, surtout lorsqu'il dit « L'être humain, point culminant, sommet de la hiérarchie des êtres de la nature, embrasse tout ce que le monde peut exprimer en lui et montre enfin à l'univers le reflet qu'il porte en lui. C'est pourquoi la nature tout entière jubilerait si elle pouvait percevoir et sentir son propre reflet dans l'âme humaine. » Que signifient ces lignes sinon que tout ce qui nous entoure dans le monde existant, ce qui en dehors de nous est nature et esprit, est concentré dans l'être humain, l'élève jusqu'à un point ultime et devient dans chaque être humain en particulier, dans cette individualité humaine, dans cet ego aussi beau, aussi vrai, aussi parfait qu'il est possible de l'être. L'être humain accomplira donc son destin en extrayant le maximum de choses du monde extérieur afin d'en enrichir son « je », son « ego ». Ce faisant, il s'unit à tout ce qui est dans le monde ainsi qu'à ce qui en lui devient fleur et fruit de l'existence. L'idée fondamentale de cette conception est que l'être humain doit tout faire pour embrasser ce que l'univers lui offre et le transformer en fleuron de la couronne de l'existence. On pourrait bien évidemment appeler cela égoïsme et dire « l'ego humain est là uniquement comme organe servant à exprimer ce qui s'est concentré dans son esprit et qui sans lui demeurerait éternellement caché au sein de la nature, ou en d'autres termes, il appartient à la nature de l'être humain de résumer en son « je », en son « soi » l'existence universelle. Mais cependant, il appartient également à la nature et à l'essence de l'être humain de métamorphoser en erreur et égarement les lois générales qui conduisent les règnes inférieurs à leur développement suprême. Cette possibilité est liée à ce que nous nommons la liberté. Il n'existerait en effet aucune liberté si l'être humain n'avait la faculté de mésuser de certaines forces qui peuvent d'un côté le porter vers le sublime, de l'autre inverser son existence, en faire même une vraie caricature. Un exemple très simple va nous le faire comprendre. Tournons-nous encore une fois vers le monde végétal. Il ne nous arrive guère de parler d'égoïsme à propos de la plante. C'est simplement pour éclairer le concept d'égoïsme dans le monde que nous avons dit « ce qui s'exprime dans la plante » pourrait être appelé « égoïsme », entre guillemets, mais le monde végétal est sans égoïsme. Observons ce monde végétal, non au sens matériel, mais du point de vue de l'esprit. Une remarque s'impose. La plante, d'une certaine manière, est douée d'une vertu qui la rend invulnérable à l'égoïsme. D'un côté, elle est destinée à se faire aussi belle que possible et ne demande pas à qui sert cette beauté. Mais quand elle résume en elle toutes ses possibilités, qu'elle s'élève à l'épanouissement suprême de son être personnel, le moment est venu, et il est déjà là, où elle doit sacrifier cet être personnel. Nous touchons ici à une particularité du monde végétal. Goethe dit très joliment dans ses « Paroles en prose »« Sprüche in prosa » la loi du végétal atteint par la fleur son accomplissement ultime. La rose en est la manifestation la plus merveilleuse. Le fruit ne peut jamais être beau, car en lui la loi revient sur elle-même. Elle redevient pure loi. Il est clair pour Goethe que la plante, en fleurissant, exprime sa propre loi de la façon la plus artistique. À l'instant où elle fleurit, elle doit être prête à sacrifier au fruit sa plus grande beauté. Elle est destinée à sacrifier son soi à ceux qui lui succèdent, le fruit et son germe. N'est-il pas grandiose qu'au moment même où la plante réalise son destin, elles doivent se sacrifier? Nous voyons par cet exemple d'un règne inférieur que dans la nature, l'égoïsme ne peut atteindre qu'un certain stade à partir duquel il se détruit lui-même. L'être se sacrifie pour qu'apparaisse quelque chose de nouveau. Ce qui s'évanouit dans la plante, ce que l'on pourrait appeler l'individualité, le soi de la plante, c'est-à-dire la beauté de la fleur, commence à se flétrir dès le moment où le nouveau germe est formé. Demandons-nous maintenant s'il existe un cas semblable dans le règne humain. En fait, si notre observation de la nature et de la vie de l'esprit est faite du point de vue spirituel, nous trouvons qu'en effet, un cas analogue existe dans le règne humain. L'être humain n'est pas seulement destiné à engendrer son semblable, c'est-à-dire à vivre à l'intérieur de l'espèce, mais à dépasser celle-ci et à mener une vie individuelle. Nous pouvons connaître l'égoïsme sous son vrai jour quand il est question de l'être humain en plaçant son entité devant nos yeux, telle que nous l'avons étudiée dans les chapitres précédents. L'être humain a non seulement un corps minéral, mais possède un deuxième élément constitutif supérieur, le corps éthérique ou corps de vie, qu'il a en commun avec le monde du vivant. Puis un troisième élément que possèdent tous les êtres du règne animal, élément porteur du plaisir et de la douleur, de la joie et de la souffrance, le corps astral. Au sein de ces trois éléments vit le germe proprement humain, le je. Ce je est porteur de l'égoïsme, qu'il soit justifié ou non. Toute l'évolution de l'être humain consiste à transformer les trois autres éléments de son entité. À une étape très imparfaite de l'évolution, le je est l'esclave des éléments inférieurs, corps physique, corps éthérique, corps astral. N'observant que le corps astral, nous voyons qu'à un niveau inférieur de son existence, l'être humain suit tous ses instincts, ses désirs et ses passions. Mais en se développant, il purifie de plus en plus son corps astral, ce qui signifie qu'il transforme ce dont il est esclave, en quelque chose qui est dominé par sa nature supérieure, par son « je ». Alors le « je » maîtrise et corrige toujours davantage les autres éléments de sa nature. Nous avons vu également dans les chapitres précédents que l'être humain se trouve aujourd'hui au milieu de son évolution et qu'il se dirige vers un avenir où le « je » régnera de mieux en mieux sur les éléments inférieurs. En effet, en transformant son corps astral, il engendre ce que nous appelons le « soi-esprit » et que la philosophie orientale appelait « manas ». Actuellement, l'être humain a déjà transformé une partie de son corps astral en manas. Par la suite, le corps éthérique pourra également être purifié et devenir ce qui porte le nom d'esprit de vie, ou bouddhi dans la tradition orientale. Et plus tard, quand l'être humain dominera complètement les phénomènes physiques de son corps, une partie de celui-ci sera transformée en homme-esprit, ou atma. Nous apercevons ainsi un avenir que nous avons tout juste commencé. Ce « je » sera un jour le régulateur, le maître de toute l'activité humaine. Cette conscience qu'il faudra atteindre à l'avenir a été préparée depuis fort longtemps au sein de la nature humaine. Le « je » a déjà, de façon plus ou moins inconsciente ou sous-consciente, travaillé à la trame des trois éléments constitutifs. À une époque reculée, il a transformé une partie du corps astral, ou corps de sensation, en âme de sensibilité. Puis une partie du corps éthérique en âme d'entendement. Et enfin une partie du corps physique en âme de conscience. Résumons-nous. Nous possédons une nature triple. De sa transformation, une vie psychique triple est née petit à petit. L'âme sentante ou l'âme de sensation qui fleurit sur le terrain du corps de sensation. L'âme d'entendement qui jaillit du corps éthérique. Et l'âme de conscience dont le support est le corps physique. Cet aspect intérieur de l'être humain nous intéresse aujourd'hui et nous allons observer les rapports existants entre l'âme de sensation et le corps de sensation. Quand nous voyons grandir un être depuis l'heure de la naissance et observons combien peu à peu ses facultés se développent comme sortant des profondeurs de sa corporéité, nous pouvons nous dire « Voilà l'âme de sensibilité ou de sensation qui travaille en pleine lumière. » En effet, Le corps de sensation nous a été donné tout construit par notre environnement. Une autre expression de Goethe nous permet de comprendre cette notion. L'œil est créé par la lumière, pour la lumière. Quel que soit l'organe des sens par lequel nous prenons conscience du monde, l'expression de Schopenhauer, la lumière ne pourrait être perçue si l'être humain n'avait pas Dieu pour la percevoir, n'est que partiellement valable. L'autre aspect, tout aussi vrai, est s'il n'y avait pas de lumière, l'œil n'existerait pas. À des époques extrêmement lointaines, la lumière répandue dans l'univers a travaillé à l'organisme et créé cet organe capable aujourd'hui de percevoir la lumière. Nous pouvons voir autour de nous dans le monde toutes les forces qui ont travaillé à notre organisme, façonnant des organes de perception consciente. Ainsi donc, notre corps de sensation est la trame, la structure façonnée par les forces vivantes du monde environnant, grâce à laquelle nous entrons en rapport avec ce monde. Nous, êtres humains, n'avons pris aucune part à cette création. Notre corps astral est un produit, une fleur du monde. Mais voici qu'au sein de ce corps de sensation paraît l'âme de sensation, l'âme de sensibilité. Elle a été créée par l'activité plastique du jeu, qui l'a extraite pour ainsi dire de la substance du corps de sensation. Le jeu vit dans le corps de sensation et en filtre pour ainsi dire la substance pour en faire surgir l'âme de sensation en surface. Cependant, le jeu peut travailler de deux façons. Il peut développer les facultés intérieures psychiques de cette âme de sensation pour qu'elle s'accorde avec les facultés et les instincts du corps de sensation et soit en harmonie avec lui. Un exemple choisi dans le domaine de l'éducation nous fait comprendre cet aspect. L'éducation nous offre les principes les meilleurs et les plus pratiques pour expliquer ce qu'est la science de l'esprit. Le corps de sensation fut construit par le monde environnant. C'est à ce corps que travaillent les éducateurs qui sont auprès de l'enfant dès le début de son existence. Ils peuvent offrir au corps de sensation de l'enfant des désirs, des sentiments que son jeu suggère et qui sont en harmonie avec son propre corps de sensation. Mais ils peuvent aussi lui proposer des sentiments ou sensations qui contrarient ce corps. Lorsque l'enfant est éduqué de façon telle qu'il s'intéresse d'une manière vivante à tout ce que voient ses yeux, lorsqu'il peut éprouver de la joie devant les couleurs et les formes, avoir du plaisir aux sonorités, au bruit, lorsque l'harmonie s'établit entre ce qui lui vient de l'extérieur et ce qui monte de son âme de sensation sous forme de joie, de plaisir, de participation et d'intérêt à l'existence, on peut dire alors que ce qui monte en lui de l'intérieur est un juste reflet de l'existence, et que ce qui vit en son âme s'accorde harmonieusement avec le monde extérieur. Donc, à ce moment, il ne vit pas seulement en lui-même. Il n'est pas seulement capable de façonner une âme de sensation dans son corps de sensation, mais il est devenu capable de sortir de lui-même. Il voit et il entend comme le lui permet la nature, et de plus, il peut se détacher de ce qu'il a vu et entendu, sortir de ses sensations, se répandre dans le monde extérieur et vivre dans ce que son corps de sensation lui transmet. Il y a là accord non seulement entre le corps de sensation et l'âme de sensation, mais entre le monde environnant et les expériences de l'âme de sensation. Car celle-ci se déverse dans le monde et fait de l'être humain un reflet de l'univers, un microcosme, un petit monde qui, d'après Goethe, se trouve à l'aise dans le milieu si grand, si vaste et si merveilleux. Un autre exemple. Un enfant qui grandirait sur une île solitaire, loin de toute compagnie humaine, n'acquérerait pas un certain nombre de facultés. Il ne pourrait développer ni son langage, ni sa pensée, ni les nobles qualités que la vie en commun peut faire surgir dans l'âme de l'être humain, car ce sont des facultés qui se développent au profond de l'âme. Cependant, tandis qu'un développement permettant de sortir de soi-même crée une harmonie avec le monde, Il en existe un autre qui tendra à enfermer les sentiments dans l'âme, à les durcir intérieurement et à les dessécher. Tout ce qui monte de l'âme de sensations se dessèche. Les impressions du monde extérieur, couleurs, sons, etc., n'éveillent aucun écho, aucun désir de déverser avec plaisir et intérêt les impressions reçues du monde dans le monde. Un être humain qui serait incapable de transformer les expériences faites grâce au contact de ses semblables, incapable de les retourner vers les autres êtres humains pour les élaborer avec eux, se durcirait intérieurement, se séparant des autres pour vivre uniquement en lui-même. Il entrerait en désaccord avec tout ce qui l'entoure. Par là même, il creuserait un abîme entre son âme de sensation et son corps de sensation. Cet être humain se détournant du monde après avoir profité des fruits de l'évolution ne remet pas au service de l'humanité tout ce qu'il a acquis par son commerce avec ses semblables et creuse alors un abîme entre lui et le monde, que ce soit le monde dans son ensemble, si son intérêt pour celui-ci n'a pas été éveillé, que ce soit l'entourage humain dont il a reçu les plus beaux dons, le résultat est le même, l'être humain se dessèche. En effet, tout ce qui vient de l'extérieur ne peut que le vivifier s'il n'est pas déjà un être déraciné. Mais s'il ne veut pas épancher son psychisme dans le monde extérieur, c'est qu'il est alors détaché de ses vivantes racines. En élargissant toujours davantage l'abîme qui le sépare du monde extérieur, il n'arrive qu'à un seul résultat, l'assombrissement, la mort de sa vie psychique. Voilà le mauvais côté de l'égoïsme que nous voulons caractériser. Il se manifeste par le fait que l'être humain travaillant de cette sorte à son propre « je » creuse un abîme entre lui et le monde. Lorsque l'égoïsme prend cette forme, lorsque l'être humain n'est plus la fleur façonnée par le monde, continuellement nourrie et vivifiée par lui, il conduit à la mort. Elle est l'obstacle qui, en général, lui barre le chemin. C'est en cela que nous pouvons connaître en quoi consiste l'égoïsme. D'un côté, l'univers atteint par l'être humain et en l'être humain son sommet et sa fleur. Sa fleur la plus belle, par le fait que celui-ci extrait et absorbe toutes les forces qu'il puise dans l'univers. D'un autre côté, l'être humain doit réaliser consciemment ce que la plante fait inconsciemment. Au moment où la plante s'imprègne de sa propre substance, ce qui est derrière elle fait que son égoïsme passe dans une plante nouvelle. Mais l'être humain, être conscient, porteur d'un « je », doit établir lui-même cet accord. Il doit, à un certain degré de son évolution, rendre ce qu'il a reçu de l'extérieur et engendrer en son « je » un « je » plus élevé, qui ne se durcisse ni se dessèche, mais se met en accord avec le monde. L'observation de la vie montre bien souvent qu'un égoïsme exclusif se détruit lui-même. Il y a des êtres humains qui ne peuvent ressentir aucun sentiment d'enthousiasme devant le grand équilibre, la beauté de la nature dont leur organisme est issu. Observant tous les rapports qui existent entre l'être humain et la nature, quelle tristesse ne ressent-on pas à voir des êtres passés indifférents devant les merveilles qu'elles recèlent, alors que leurs yeux, leurs oreilles ont été façonnés par elle, et se séparer d'un monde où plongent toutes leurs racines pour ruminer, se creuser la tête, réfléchir sur eux-mêmes. Mais la vie, qui dans ce cas prend une fausse tournure, punit à son tour l'être humain qui passe ainsi inattentif, blasé devant tout ce qu'elle lui offre. Blasé, oui, et rejeté de désir en désir, il se hâte à travers le monde sans même remarquer qu'il obtiendrait l'apaisement recherché au milieu d'illusions nébuleuses, en déversant sa propre essence dans le monde d'où elle lui est venue. Qui va partout disant « Les êtres humains me pèsent, il n'y a rien à faire avec eux, chacun d'eux me dérange, trouble mon existence, je suis trop bon pour ce monde ». Qu'il réfléchisse un peu, il verrait qu'il renie ce dont il est sorti. S'il avait été élevé sur une île isolée, éloigné de cette humanité pour laquelle il se trouve trop bon, il serait demeuré idiot, il n'aurait aucune des facultés qu'il possède maintenant. Ce qu'il estime tellement en lui n'existerait pas sans ces êtres humains avec lesquels il pense ne rien avoir à faire. Il faudrait qu'il sache enfin que c'est son bon plaisir qui le sépare de son entourage et que ce qu'il lui oppose avec tant de force est justement ce dont il lui est redevable. Un être humain qui repousse ainsi la nature et l'existence humaine fait mourir en lui non seulement tout intérêt pour la nature et les êtres humains, mais même les forces de vie. C'est pourquoi il avance au milieu d'un désert. C'est pourquoi son existence n'est pas sereine. Tous ceux qui s'enivrent de la souffrance du monde parce qu'ils ne peuvent accrocher leur intérêt à aucun point fixe devraient se demander « Quelle est la raison de mon égoïsme ?» Mais il faut noter ici qu'il existe une règle universelle. Toute existence se corrige elle-même. Lorsque l'égoïsme est injustifié, il transforme l'existence en désert. Un être humain qui ne participe pas à la vie de ses semblables ni à celle du reste du monde laisse non seulement inéduqué, aride, les forces qu'il aurait dû tourner vers le monde, mais il se détruit lui-même. L'égoïsme, lorsqu'il est à son maximum, écrase, brise l'être humain. Appliquons maintenant aux différentes facultés de l'âme cette loi relative à l'essence de l'égoïsme que nous avons découverte et nous pourrons poser cette question. Comment l'égoïsme réagit-il sur l'âme de conscience, intermédiaire nécessaire à notre savoir, à notre connaissance? Ou en d'autres termes, quand une connaissance peut-elle être réellement féconde? Quand elle place l'être humain dans une position harmonieuse vis-à-vis du monde, ce qui signifie que seules sont vivifiantes pour l'âme les notions et les idées prises dans le monde, dans le tableau vivant du monde. Une connaissance n'est vivante que si elle unit l'être humain au monde. Donc, toute connaissance est saine pour l'âme et pour le corps physique lorsqu'elle est appréhendée par un être qui cherche pas à pas les grandes vérités de l'existence. Par contre, toute connaissance qui détruit le lien vivant avec le monde, toute recherche minutieuse, toute introspection qui ne fait que tourner en rond sur soi-même, met en désaccord avec le monde, durcit l'être intérieur. On comprend maintenant l'énorme malentendu existant au sujet de la formule antique « Connais-toi toi-même ». Elle a toujours un sens et pour tous les temps, à condition que l'être humain prenne conscience du fait qu'il appartient au monde, que son soi ne se trouve pas simplement enfermé dans les limites de sa peau, mais qu'il s'étend sur le monde tout entier, y compris le soleil, les étoiles et les êtres de la terre, et que son soi ne lui en offre qu'une impression à l'intérieur de sa peau. Quand il a reconnu son appartenance au monde, il comprend alors seulement la sentence « Connais-toi toi-même ». À cet instant, la connaissance de soi devient connaissance du monde. Tandis que s'il ne s'est pas pénétré de cette notion, l'être humain demeure aussi malin que ce petit doigt qui voulut un jour, dit le conte, se séparer du corps afin de poursuivre seul son existence. Coupez-le et bientôt il ne sera plus question de lui. Mais le doigt ne se fait aucune illusion, il sait bien qu'il n'existe pas sans le corps. Seul l'être humain s'imagine pouvoir vivre sans lien avec le monde. La connaissance du monde est connaissance de soi, et inversement. Toute méditation, toute introspection limitée à soi n'est que le signe qu'on n'arrive pas à se dégager, à se délivrer de soi-même. Actuellement, dans certains cercles, toutes sortes d'excès sont pratiques courantes. On y dit notamment « La solution de l'énigme de l'existence ne se trouve pas dans le monde extérieur, pas dans les phénomènes imprégnés d'esprit qu'il nous montre, mais dans l'être personnel. » On entend aussi ce genre de conseil. « Il faut trouver Dieu dans sa propre poitrine. » Ou encore, « Point n'est besoin de vous fatiguer à chercher dans l'univers les révélations de l'esprit du monde, mais regardez en vous-même, vous y trouverez tout. » De telles paroles rendent de bien mauvais services aux êtres humains. Elles les rendent orgueilleux et égoïstes quant à la connaissance. Il en résulte qu'au lieu de leur apprendre l'altruisme, au lieu de les délivrer de leur soi et de les mettre en rapport avec les grandes énigmes de l'existence, elles les durcissent en affirmant qu'ils peuvent trouver toute vérité et toute sagesse en eux-mêmes. C'est à l'orgueil, à la vanité qu'on fait appel en disant « Il n'est pas nécessaire de chercher la connaissance dans le monde, vous pouvez tout trouver en vous ». Mais la vérité, c'est de montrer que l'accord avec le monde peut élargir la conscience, donc élargir aussi le champ des perceptions. Observons le contenu de l'âme d'entendement ou de raison. Nous remarquerons qu'un même processus s'y fait jour. Cette âme d'entendement se renforce quand l'être humain est en harmonie avec le monde, tandis qu'elle s'affaiblit quand du matin au soir il se demande « Que dois-je penser maintenant ? Que dois-je faire ? Qu'est-ce qui me fait encore mal ?» etc. Par contre, il se fortifie s'il laisse agir sur son cœur la beauté, la grandeur du monde, s'il communie avec les autres cœurs ou s'intéresse chaleureusement à ce qui leur fait défaut. Lorsqu'on laisse grandir en soi ce genre de sentiments qui permettent de comprendre les êtres humains, de participer aux événements du monde, on construit dans la sphère du sentiment des forces de vie qui maîtrisent l'égoïsme, élèvent et enrichissent le « je », placé à cet instant sur le plan d'un égoïsme justifié, en harmonie avec le monde. L'observation de l'activité volontaire de l'âme de conscience nous offre le meilleur moyen d'exprimer ce phénomène. Tant que l'être humain n'a de volonté que par rapport à lui-même, tant que ses impulsions volontaires ne tendent que vers ce qu'exige son être essentiel, aucun apaisement, aucune satisfaction n'en résulte. Tandis que lorsqu'il voit le reflet de ses décisions dans le monde extérieur et comment elles s'y réalisent, il peut dire qu'il a accordé sa volonté avec ce qui se passe dans le monde. En fait, la force volontaire déployée n'est pas dirigée par ce que nous voulons pour nous-mêmes, mais par ce que nous voulons pour le monde, pour les autres êtres humains. C'est ce motif d'action qui permet à notre volonté de se réaliser dans le monde et d'apparaître en nous sous forme de reflet. De même que la lumière construit l'œil de l'extérieur, de même que la force d'âme construit à partir de nous, mais à l'extérieur, le monde de nos actes, de notre activité. Nous voyons donc que l'être humain conscient établit d'une façon juste l'accord de son « je », de son ego, avec ce que nous appelons le monde extérieur, jusqu'à ce que quelque chose naisse de lui, quelque chose de nouveau, c'est la naissance de l'homme supérieur. On élabore également quelque chose comme la plante à un niveau inférieur élabore un être nouveau qui éclot au moment même où elle frôlait le danger d'un durcissement. C'est ainsi qu'il faut comprendre l'essence de l'égoïsme. Le je, fécondé par le monde qui, au point culminant de son existence, engendre un nouveau je, atteint la maturité nécessaire pour se déverser dans des actes qui autrement ne peuvent se réaliser que par des efforts futiles, des postulats moraux sans valeur. Connaître le monde permet à la volonté de se déployer intérieurement pour se réaliser ensuite dans le monde. Les différents articles des statuts d'une société ne permettront jamais l'accomplissement de principes moraux, même s'il en est d'innombrables qui placent l'amour altruiste en tête de leur programme. Tout prêche recommandant l'amour altruiste est alors aussi objectif que l'injonction faite au poil dans une chambre glaciale. « Cher poil, ton devoir moral de poil exige que tu chauffes la chambre. » Asseyez-vous des heures et des jours et attendez qu'il plaise au poil de chauffer. Répétez aux êtres humains pendant les siècles qu'ils doivent s'aimer. Cela ne leur fera pas plus d'effet. Par contre, dirigez leur ego vers le monde. Faites-les participer à ce qui s'y passe. Croissance des fleurs, beauté de la nature, etc. Vous verrez alors que cette participation devient la base d'une communion plus élevée que l'être humain découvre au contact des autres êtres humains. Apprenant à connaître les entités d'autres natures humaines, à les regarder en face et les yeux dans les yeux, il apprend aussi à comprendre ses propres fautes, aussi bien que ses qualités ou ses avantages. Cette sagesse, née d'une appréhension vivante du monde, passe dans le sang, dans les actes, dans la volonté. Ce qu'on appelle l'amour, entre guillemets, naîtra de cette sagesse. Et de même que vous n'auriez pas l'idée de dire au poêle « Cher poêle, il est de ton devoir de chauffer la chambre », mais que vous prendriez du bois pour le remplir et allumeriez le feu, de même vous devez donner à l'être humain du bois et du feu pour enflammer son âme, la réchauffer et l'éclairer. Là où l'harmonie et la compréhension de la nature humaine existent, entre l'ego et le reste du monde, là est la connaissance réelle et vivante du monde. Là est aussi l'amour vivant, celui-là même qui va de cœur à cœur, qui unit les êtres humains, leur apprend à reconnaître que les actes accomplis en vue d'un intérêt personnel tuent l'âme, la rendent aride, tandis que ceux accomplis pour les autres se reflètent en l'être humain, agissant et se répercutant sur sa propre force. Donc, un égoïsme justement compris enrichit et développe le « je », lorsque le soi personnel est vécu dans le soi de l'autre, lorsque le sentiment n'est pas personnalisé mais partagé. Ce sont là les conceptions de la science de l'esprit. Tous ceux qui ont sérieusement et valablement réfléchi au sens de l'existence se sont intéressés au sujet que nous abordons ici. Le problème de l'égoïsme devrait les attirer particulièrement, et surtout à notre époque où l'être humain s'est arraché à certains liens. Le XVIIIe siècle vit cette séparation. Goethe fut l'un de ceux qui se préoccupèrent de ce problème de l'égoïsme, du « je ». Il a donné en un long poème l'histoire de l'égoïsme. C'est un exemple de ce que furent ses idées sur l'égoïsme. Ce poème, c'est Wilhelm Meister, qui, dans les années d'apprentissage et la suite, les années de voyage, l'a accompagné tout au long de son existence, comme le fit Faust. Vers les années 70 du XVIIIe siècle, Goethe a éprouvé le besoin de faire de la vie particulière de Wilhelm Meister une espèce de reflet de sa propre vie. Puis, dans un âge très avancé, presque à la veille de sa mort, il en a terminé la deuxième partie, les années de voyage. Entrer dans tous les détails de Wilhelm Meister nous conduirait trop loin. Cependant, j'aimerais esquisser rapidement ce que Goethe a pensé, tout au long de ce poème, du problème de l'égoïsme. Sous les traits de Wilhelm Meister, Goethe nous présente un égoïste raffiné. Il est né dans une famille de commerçants. Mais il est assez égoïste pour ne pas demeurer dans cette profession qui semble lui être naturellement destinée. Que veut-il donc? On voit très vite qu'il cherche à développer son soi le plus possible et surtout à le rendre libre. Il a le désir assez trouble, assez inconscient, de devenir parfait. Goethe le promène au milieu d'une quantité d'expériences et de destins divers pour montrer comment la vie agit sur cette individualité pour l'élever. Cependant, l'auteur sait bien que Wilhelm Meister est attiré en sens contraire par toutes sortes de liens et qu'il ne parvient pas à un but précis. C'est pourquoi, à un moment donné, il l'appelle « pauvre chien ». Mais il dit en même temps qu'il sait bien qu'un homme, malgré les sottises et les erreurs qui jalonnent sa vie et qui l'éduquent, est conduit vers un certain but, ou en tout cas sur un certain chemin, par des forces qui existent dans le monde. Goethe a toujours pensé que la vie humaine n'est jamais totalement soumise au hasard, mais que, comme toute chose, elle obéit à certaines lois et même à des lois spirituelles. C'est pourquoi, il dit, le genre humain est à observer comme un individu immense, toujours en progression et qui apprend à maîtriser le hasard. Il montre que Wilhelm Meister cherche toujours à élever, à enrichir et à perfectionner son ego. Mais dans le même temps, Goethe place son personnage dans des situations auxquelles, en général, manque totalement la base, l'appui de la vie journalière. Il faut comprendre, d'après l'histoire du XVIIIe siècle, pourquoi il l'enlève de la vie réelle quotidienne. En effet, il conduit son Wilhelm Meister dans le milieu du spectacle, ce qui signifie qu'il ne doit pas connaître le côté réel de la vie par l'exercice d'une profession, mais seulement dans des cercles qui n'en montrent que l'apparence, l'image. L'art est déjà en quelque sorte une image de la vie. Il n'est pas la réalité immédiate, il s'élève au-dessus d'elle. Goethe était parfaitement conscient du fait qu'être seul avec son art, c'est courir le danger de perdre le côté solide de la réalité. Il existe une belle expression de cette pensée : la muse peut accompagner, mais non pas diriger une vie. Wilhelm Meister s'abandonne d'abord à ces forces de l'art qui s'expriment par la belle apparence de l'un d'entre eux, le spectacle. Parcourons en esprit toute la vie de Wilhelm Meister et remarquons combien, en fait, il est ballotté par-ci, de là, et passe du mécontentement, de l'insatisfaction à la joie. Il faut connaître les deux épisodes les plus importants des années d'apprentissage pour comprendre Wilhelm Meister. Après tant d'insatisfactions et de joies éprouvées dans ce milieu du théâtre, il arrive enfin à un genre de représentation modèle de Hamlet, grâce à laquelle il ressent une certaine satisfaction au sein de l'élément dans lequel il est imbriqué. Son jeu en est grandi. Les deux épisodes en question nous montrent l'arrière-pensée de Goethe, c'est-à-dire l'essence de l'égoïsme. Le premier est l'épisode de Mignon, qu'il rencontre dans un milieu assez douteux et qui, telle une merveilleuse apparition, l'accompagne un moment. Goethe dit beaucoup plus tard au chancelier von Müller quelque chose de remarquable au sujet de Mignon, répondant à un mot de Madame de Staël qui disait « Tout ce poème de Mignon est un épisode qui n'appartient absolument pas à l'œuvre de Wilhelm Meister. » Goethe répond « C'est en effet un épisode, et celui qui ne s'intéresse qu'au côté extérieur du roman peut bien dire de cet épisode qu'on peut le supprimer. » Mais il serait très injuste de croire que l'histoire de Mignon n'est qu'un épisode seulement. Au contraire, toute l'histoire de Wilhelm Meister est construite autour et à cause de ce personnage singulier. Cependant, Goethe ajoute aussi, dans une autre conversation, que certaines choses ne sont pas à prendre à la lettre. Approfondissons la pensée de Goethe et nous comprendrons le sens de ce qu'il dit à von Müller. Ce personnage de Mignon, masculin ou féminin, sans indication précise qui signifie simplement « bien-aimé », est un être humain dont la vie dure jusqu'au moment où le germe de l'égoïsme qui nous occupe commence à poindre. La psychologie de Mignon est très remarquable. Cette fillette pénètre dans la vie d'une façon naïve et puérile. On ne remarque à aucun moment chez cet être un quelconque désir personnel. Tout ce qu'elle fait vient de sa nature. On pourrait dire de ce petit être qu'il est si naïf, si peu humain que l'égoïsme ne l'a même pas encore effleuré. À l'instant où Wilhelm Meister commence un nouvel épisode de sa vie qui brise le lien qu'il attache à Mignon, elle s'affaiblit et meurt, comme la plante qui elle aussi meurt quand elle atteint un certain point de son existence. C'est un être qui n'est pas encore humain, qui n'a pas encore de « je », en qui la naïveté enfantine place encore l'humanité en général en relation directe avec le monde, elle meurt comme la plante. Et les paroles d'Angelus Silesius pourraient bien s'appliquer à Mignon. La rose est sans pourquoi. Elle fleurit parce qu'elle fleurit. Elle ne se regarde pas elle-même, ne demande pas si on la voit. On pourrait réellement dire deux actes semblables accomplis par deux personnages différents deviennent deux actes totalement différents. Ce que d'autres font par égoïsme, Mignon le fait par une nécessité de sa nature. À l'instant où il pourrait être question d'un éveil de son égoïsme, elle meurt. Le côté envoûtant de Mignon, c'est que nous avons affaire à un être sans jeu et qu'il nous échappe au moment où l'égoïsme pourrait le frôler. S'intéressant au plus haut point au problème de l'égoïsme chez Wilhelm Meister, il est saisissant que Goethe ait prononcé ces paroles. Ce que vous devez chercher en Wilhelm Meister, vous le trouvez en son contraire, en Mignon. Ce qui meurt à l'instant où l'être veut poindre, s'affirmer, c'est justement ce qui oppose à Wilhelm Meister tant de difficultés pour le développement de son jeu, et ce pourquoi il a besoin de passer par la discipline éducative de la vie. Dans la trame du roman intervient ensuite, et semble-t-il sans aucune raison, un épisode dont le titre est « Confession d'une belle âme ». On sait que ces confessions sont presque à prendre à la lettre et sont celles de l'amie de Goethe, Suzanne von Klettenberg. Dans ces confessions se dessine d'une façon parfaite ce que nous avons dit de l'essence de l'égoïsme. Comment cela ? Cette belle âme, Suzanne von Klettenberg, a atteint un niveau élevé de développement. Mais elle nous montre précisément dans ses confessions les dangers de l'égoïsme, l'envers de l'enrichissement, de la plénitude du jeu. Car dans les confessions d'une belle âme, elle décrit toute son évolution personnelle. Suzanne von Klettenberg peint d'abord la joie que lui donnent le monde et les hommes. Puis un jour, une intuition s'éveille en elle et lui murmure « Il y a en toi quelque chose qui te rapproche de Dieu ». Sa première impression, après cette expérience intérieure, est de se sentir étrangère au monde. Elle n'a plus d'intérêt pour lui. Elle éprouve joie et béatitude, bonheur intérieur, même grâce au rapport qu'elle entretient avec ce qu'elle appelle « son Dieu ». Entre guillemets. Elle se retire complètement en elle-même. Au fond, cette belle âme vit dans un égoïsme raffiné. Cette éclosion du spirituel dans l'être intérieur qui éloigne l'être humain du monde le lui rend froid et indifférent, l'en sépare, peut apporter au début une certaine satisfaction, un certain bonheur. Mais à la longue, le bonheur disparaît, car réduite à elle-même, l'âme se dessèche, devient aride. Mais cette belle âme est aussi une âme énergique et sa recherche lui fait franchir une étape après l'autre. Elle ne peut se libérer complètement de ce qui vient de l'extérieur et lui apporte l'harmonie. Elle cherche donc sans cesse, dans les symboles des religions, les arrière-plans mystérieux où elle espère voir refléter ce qui monte dans son ego et qu'elle appelle son Dieu. Mais au fond, ce qu'elle découvre dans les formes extérieures ne lui suffit pas. Elle veut aller plus loin. Elle est alors conduite à une étape très remarquable de son existence. Elle se dit en effet un jour « L'humanité qui habite la terre n'a pas paru si peu de choses à un Dieu puisqu'il s'est incarné dans un corps d'être humain. » Or, à cet instant, il ne lui semble pas que le monde extérieur ait diminué de valeur pour n'être pas l'esprit réel, mais seulement l'expression de l'esprit ou même un déchet de l'esprit. Elle sent au contraire qu'il est imprégné d'esprit et que l'être humain n'a pas le droit de se libérer de ce qui l'entoure. Une autre expérience point qui lui fait dire « Ce qui s'est passé au début de notre ère en Palestine doit être vrai. » Elle y participe, elle revit intérieurement toute la vie du Christ Jésus jusqu'à la crucifixion et la mort. Elle sent le divin dans l'humanité et elle l'éprouve si fort, ainsi qu'elle le décrit, que tout ce qui pourrait devenir image extérieure, tout ce qui pourrait surgir en elle de sensible physique sous forme d'image, recule, s'efface, afin que son expérience soit purement spirituelle, l'invisible devenant visible, l'inaudible devenant audible. Elle se sent dès lors unie à une divinité non plus abstraite, mais appartenant au monde terrestre. Mais hélas, d'une certaine manière, la voici à nouveau étrangère aux nécessités de la vie quotidienne dont elle ne trouve plus le chemin. À ce moment, un autre phénomène se produit qui lui permet d'apercevoir, dans chaque objet, dans chaque existence particulière, dans chaque événement de la vie courante, quelque chose comme une empreinte du spirituel. Elle interprète ce phénomène comme le degré le plus élevé de son développement. Goethe, et c'est ce qui le caractérise, se confesse en quelque sorte au moment où il écrit les confessions d'une belle âme. Que cherchait-il à démontrer par ces confessions, sinon qu'elles représentaient un point important de l'éducation de Wilhelm Meister? Celui-ci devait lire le manuscrit et atteindre par cette lecture un degré plus élevé. Il devait lui être montré que l'être humain par lui-même ne peut avoir une vie psychique suffisamment vivante et animée qu'il ne peut aller assez loin ni assez haut dans ce qu'on appelle son commerce avec le monde spirituel. mais qu'une séparation d'avec le monde ne peut pas non plus conduire à l'épanouissement de soi, et qu'une réelle compréhension du monde n'est possible qu'avec un « je » intérieur enrichi, ayant acquis la faculté de se déverser, de se répandre dans le monde. En résumé, Goethe dit « D'abord, on observe le monde tel qu'il est, on y découvre ce qui est ordinaire et trivial, et on s'y accroche, on adhère au quotidien. On dira peut-être alors « Voici la vie quotidienne, le spirituel ne se trouve que dans l'être intérieur. » On peut en effet le découvrir en soi, à un niveau très élevé. Mais lorsqu'on l'y a découvert, on a d'autant plus le devoir de retourner volontairement vers le monde. C'est alors qu'on redécouvre dans sa spiritualité ce qu'auparavant on avait trouvé si trivial. Le même monde peut apparaître sous son aspect banal et ensuite sous son aspect spirituel à celui qui a trouvé l'esprit en lui. L'un trouve le monde banal du monisme, et l'autre dans le même monde et parce qu'il a enrichi ses propres facultés et développé ses organes de perception, trouve le spirituel derrière tout le sensible. Ainsi, pour Goethe, le développement intérieur est un chemin d'approche de la connaissance du monde. C'est exactement le caractère de l'âme de Wilhelm Meister. Il progresse dans son développement parce que les processus cachés de la vie agissent sur lui. Ce sont moins les expériences extérieures qui l'éduquent que la faculté de s'y plonger, de s'y intégrer, de se transporter au sein même de ce qui se passe dans une autre âme. On a reproché à Goethe d'avoir, à la fin des années d'apprentissage de Wilhelm Meister, placé derrière son personnage une soi-disant société secrète qui dirige l'être humain sans qu'il le sache lui-même. On a dit « Cela ne peut plus intéresser l'être humain actuel et n'est compréhensible que parce que l'action se passe au XVIIIe siècle. » Cependant, tout autre était l'idée de Goethe. Il voulait démontrer que l'ego de Wilhelm Meister devait vraiment chercher son chemin au travers des différents labyrinthes de la vie et qu'il existe une certaine direction spirituelle dans l'humanité. La société de la tour qui conduit Wilhelm Meister est en quelque sorte l'apparence extérieure, le vêtement des puissances et des forces spirituelles qui dirigent l'être humain, malgré les sottises et les erreurs qui jalonnent sa vie. Ainsi donc, Meister est conduit par des puissances invisibles. À notre époque, on ne peut que parler avec mépris et orgueil de ces choses. Mais c'est justement à notre époque que les Philistins ont fait tomber leur jugement sur certaines personnalités et notamment sur Goethe. Quand on connaît le monde, on ne peut qu'adhérer à cette notion. Personne ne peut découvrir dans un être humain davantage que ce qu'il porte en lui-même. Ce jugement, chacun peut le prendre pour soi. Le Philistin seul ne l'admet pas, mais il trouve tout ce qui est en Goethe, et malheur à celui qui n'est pas du même avis. Il possède en effet toute sagesse et peut donc embrasser toute sagesse. Goethe, naturellement, est alors transformé en Philistin. Ce n'est pas sa faute. Nous retrouvons notre Wilhelm Meister dans les années de voyage. Les Philistins, aussi bien que leurs adversaires, se sont indignés de l'absence de composition de cette deuxième partie, de sa présentation peu artistique. Oui, ce que Goethe nous débite ainsi est vraiment fâcheux. Il a voulu, au point culminant de son existence, à partir de ses propres expériences, exposer comment un homme progresse au travers de toutes les complications de la vie. C'est une image de lui-même. Il explique d'ailleurs aussi comment cela s'est produit. Il s'était d'abord donné beaucoup de peine pour écrire les années d'apprentissage. Nous ne voulons rien minimiser. On commença à imprimer cette première partie avant que le manuscrit soit terminé. L'imprimeur allait plus vite que Goethe n'écrivait. Celui-ci esquissa seulement les contours du livre. Il avait antérieurement écrit des nouvelles et des contes, comme par exemple l'histoire de la Sainte Famille, de la fillette brune comme une noix, de la nouvelle Mélusine, etc. On les retrouve toutes dans les années de voyage, bien qu'à l'origine, elle n'ait pas eu cette destination. Goethe intégra donc ces histoires à certains endroits de l'ouvrage et composa rapidement des chapitres de transition. Il n'y a donc aucune composition artistique préméditée. Cependant, il n'allait pas encore assez vite. Goethe donna alors à son secrétaire, Eckermann, un certain nombre de manuscrits déjà composés et lui dit « Insérez dans William Meister ce que vous pouvez trouver qui convienne ». C'est ce que fit Eckermann, et ses insertions n'ont bien souvent aucun lien avec l'ensemble, ce qui pourrait justifier les critiques formulées du point de vue artistique contre cet ouvrage. Mais Eckermann lui-même n'y a rien ajouté. Tout est de la main de Goethe et exprime ses états d'âme. Le personnage de Wilhelm Meister fut toujours présent devant lui, c'est pourquoi il put introduire dans le livre ses propres expériences. Comme Wilhelm Meister est en somme un reflet de lui-même, ses expériences se présentent tout au long du roman, comme elles se sont présentées au cours de la vie de Goethe. Il en résulte que tous les tableaux sont authentiques. On a dit « il n'y a pas de suspense là-dedans ». L'action est continuellement interrompue par de sages discours. On n'a pas encore lu le roman qu'on le critique déjà sévèrement. Mais on peut se placer à un autre point de vue et par exemple apprendre énormément de choses si l'on a la volonté de comprendre les expériences qui ont éduqué Goethe lui-même. C'est un premier point de vue. Par ailleurs, faut-il donc qu'une œuvre à notre disposition et qui peut nous rendre service soit obligatoirement composée de façon artistique? Est-ce chose si terrible? Peut-être est-ce en effet terrible que tant de sagesse soit contenue dans Wilhelm Meister pour ceux-là qui possèdent déjà toute sagesse et n'ont plus rien à apprendre. Dans la deuxième partie de l'ouvrage existe un passage fort remarquable expliquant comment le jeu peut progresser toujours davantage et atteindre un sommet. C'est l'endroit où Wilhelm Meister confie son fils à une étonnante maison d'éducation. Les Philistins ont à nouveau prononcé un jugement définitif sur ses procédés pédagogiques. Ils n'ont pas pensé un seul instant que Goethe n'avait pas l'intention de placer cet internat à un endroit précis, mais qu'il voulait seulement donner un aperçu, même symbolique, de sa conception de l'éducation dans sa province pédagogique. Si l'on s'approche un peu des processus de cette pédagogie, on tombe immédiatement sur certaines positions du corps recommandées pour exprimer certaines impressions, certains sentiments. Il en est une, par exemple, où les mains doivent être jointes sur la poitrine et où les élèves doivent diriger leur regard vers le haut. Une autre, où quand les élèves sont les uns à côté des autres, ils doivent joindre leurs mains derrière leur dos. Mais il existe également une position très particulière, où le psychique transparaît à travers l'inclination du corps vers la terre. Quel est le sens de tout cela? À cette question, on répond que les élèves doivent éveiller dans leur âme, dans leur jeu, les trois respects, grâce auxquels ils atteignent un développement harmonieux. Ces trois respects sont placés en exergue comme les principes les plus importants de l'éducation. Le premier décrit le respect à avoir pour tout ce qui est au-dessus de soi. Le second est celui qui porte à ses frères, aux autres êtres humains. Et enfin, le troisième est le respect envers tout ce qui est au-dessous, afin qu'il comprenne que sa croissance dépend de tout ce qui lui est inférieur. C'est seulement par ce moyen qu'il peut éprouver un juste respect pour son propre jeu, demeurer en harmonie avec le monde, développer son ego de façon correcte et ne pas tomber dans les erreurs de l'égoïsme. Puis, Goethe montre comment les plus importantes religions agissent sur l'âme. Les religions populaires ou ethniques s'adonnent au culte des dieux ou des esprits qui sont au-dessus de l'être humain. Les religions philosophiques enseignent le respect d'autrui, du semblable. Quant à ce qui nous fait plonger dans l'existence, vers ce qui peut facilement être méprisé et qui nous apporte la mort, la souffrance, les obstacles, si on l'observe de façon juste et avec le respect nécessaire, on est conduit à la compréhension de la religion chrétienne. Goethe insiste sur le fait que la religion chrétienne nous montre comment le Dieu descend dans les enveloppes sensibles, comment il prend sur lui toute la misère de la vie et passe par toute expérience humaine. Le respect dirigé vers ce qui est au-dessous de l'homme doit donc apporter une juste compréhension de la religion chrétienne. Tous ces détails décrivent l'évolution de l'être humain. C'est alors que Goethe conduit Wilhelm Meister dans une sorte de temple où, sous forme de tableau significatif, les trois religions sont présentées aux enfants à qui ce genre d'éducation utopique est destiné. Tout ce passage est principalement l'expression d'une sagesse, d'une conception se rapportant à la croissance de l'être humain depuis ses plus jeunes années, qui doit lui apporter d'un côté cet accord avec le monde et d'un autre côté la possibilité de perfectionner son jeu. Goethe entre même dans les détails. Il nous montre, par exemple, que les enfants ne doivent pas se distinguer les uns des autres de façon extérieure, par des vêtements différents, selon les âges ou les niveaux, mais qu'on les amène devant des vêtements de toutes sortes et qu'ils doivent choisir eux-mêmes ce qui leur convient. C'est le moyen employé pour développer une certaine individualité. Mais un genre d'esprit de corps se forme facilement, qui fait disparaître l'individualité devant le désir d'imiter quelqu'un de plus fort. Des enfants choisissent par exemple les uniformes d'autres enfants, par esprit d'imitation pour cette raison. Après un certain temps, ces vêtements sont remplacés par d'autres. En résumé, Goethe montre bien comment l'être humain doit être éduqué, et jusque dans les positions de son corps, afin de trouver son point d'équilibre en harmonie avec le monde, d'une part, et sa liberté intérieure d'autre part, jusque dans la manière de s'habiller. On peut appeler cela fantasmagorie, affirmer aussi que toute cette pédagogie n'a jamais été appliquée nulle part. Goethe lui-même voulait seulement proposer des principes qui pourraient être appliqués un jour, n'importe où et n'importe quand. À ceux qui les tiennent pour irréalisables, l'attitude de Fichte qui proposait un idéal élevé à ses étudiants devrait servir d'exemple. Il n'était pas moins conscient, il disait particulièrement à ceux qui ne savent pas grand-chose de la réalité, mais se prennent cependant pour des esprits réalistes, que les idéaux ne se réalisent pas immédiatement dans la vie courante. Nous le savons, et d'autres aussi peut-être même encore mieux que nous. Mais nous savons aussi que les idéaux doivent être là, d'abord comme des régulateurs de la vie, et ensuite pour se mêler à cette vie. Il faut insister toujours sur ce fait. De ceux qui ne veulent avoir aucun idéal, Fichte dit qu'on ne doit pas compter sur eux dans la comptabilité de la Providence. Il ajoute qu'il aimerait leur prêter un Dieu bon qui leur apporte au juste moment pluie et soleil, bonne digestion et, si possible aussi, de bonnes pensées. Ces paroles pourraient également être adressées aux critiques de Goethe, affirmant que les idées pédagogiques de celui-ci dans Wilhelm Meister sont irréalisables. Elles sont réalisables au contraire, en très grand comme en très petit, à condition qu'il existe des êtres humains qui cherchent le moyen d'introduire ces bases dans la vie quotidienne. Un deuxième épisode de Wilhelm Meister, Année de voyage, nous montre une personnalité dont le jeu se projette de la façon la plus grandiose dans le monde. C'est le personnage remarquable de Macari. Il est éveillé intérieurement. Il a développé l'esprit en lui au point de vivre uni avec l'esprit du monde. Un savoir intérieur s'épanouit depuis l'éveil de son âme par la libération de toutes ses forces intérieures. Il connaît tous les calculs qu'un astronome intelligent placé au point culminant de la science de son époque pourrait faire sur les orbites des étoiles. Dans cet épisode, Goethe montre ce que sont les investigations les plus élevées de la science de l'esprit et comment, grâce à cette science, une âme peut raisonner en harmonie avec l'univers, comment, en un mot, la connaissance de soi peut devenir connaissance du monde. Ainsi, il entoure le personnage de Wilhelm Meister de tableaux qui nous indiquent de quelle façon le soi humain doit se développer. Du début à la fin, ce roman n'est qu'un long exemple de l'évolution de l'être humain considéré par rapport à l'essence de l'égoïsme. Qu'un poète exprime de cette façon un problème si significatif de la science de l'esprit est un nouveau témoignage du génie de Goethe. Il possédait ce que nous appelons, au sens le plus vrai et le plus noble, la science de l'esprit. Nous en avons maintes preuves dans le Faust, le conte du serpent vert et du beau lys, ainsi que dans Pandore. Goethe lui-même dit « L'essence de l'égoïsme est impossible à saisir si l'on n'observe pas l'être humain dans toute son entité, si l'on ne sait pas que l'univers dut arracher l'être humain à l'esprit afin qu'il succombe aux tentations de l'égoïsme. Si l'être humain n'avait pas pu succomber à l'égoïsme, il ne pourrait pas non plus être la fleur du monde. Mais s'il succombe à cette tentation, il se suicide. La sagesse du monde veut que tout ce qui dans le monde est bon et bien puisse se métamorphoser et apparaître en l'être humain sous forme de liberté. Mais qu'à l'instant où celui-ci mésuse de cette liberté, une métamorphose s'accomplit en lui et le corrige. » Un autre chapitre nous enseigne que tout ce qui est mauvais, tout le mal dans la nature humaine, observé d'un point de vue élevé, peut se transformer en bien, en gage de progrès éternel ascendant. Ainsi, les enseignements de la science de l'esprit nous feront descendre, si nous sommes sans crainte, dans les profondeurs de la souffrance, du mal, pour y connaître ce qui conduit l'humanité vers les hauteurs de l'esprit, et est confirmation de ce que la sagesse et la poésie grecque nous ont légué par des paroles qui concluront ces considérations. L'être humain est d'un rêve l'ombre. Mais quand du soleil un rayon l'illumine, le jour devient lumière, et la vie lui sourit.